Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Bonjour Eve Ensler.
Bonjour.
Et merci infiniment d'être là. On vous doit un texte, Les monologues du vagin, joué au théâtre. Probablement le texte féministe le plus connu au monde, l'un de ceux qui a fait le plus évoluer les mentalités. En 1996, vous avez donc rédigé ce texte, vous avez donné ainsi un espace aux femmes pour parler sans détour de sexualité féminine au théâtre. Alors que les remous de l'affaire Weinstein, dont le procès s'ouvre cette semaine, ne cessent de susciter de nouveaux témoignages, se pose la question délicate du pardon. Peut-on pardonner à des actes de violence sexuelle? Et c'est dans ce contexte-là que vous publiez un texte absolument terrible, Pardon, un récit publié chez De Noël, un récit où ça n'est pas vous, mais votre père qui vous parle avec... En exergue de ce livre, cette phrase pour toutes les femmes qui attendent encore des excuses. Ce texte que vous avez écrit, Eve Ensler, ce sont les excuses de votre père, des excuses que vous n'avez pas eues. Pourquoi ne vous a-t-il pas demandé pardon?
Well, good morning.
Tout d'abord, bonjour.
I think my father was. My father died 31 years ago.
Mon père est mort il y a 31 ans.
And before he died, we didn't have any relationship.
Avant de mourir, nous n'avions plus aucune relation.
Because he had been so violent to me as a child.
Parce qu'il avait été tellement violent envers moi pendant mon enfance. Il m'a abusé sexuellement, il abusait sexuellement de moi. Quand j'étais petite fille, on avait une relation extrêmement dure. Il est mort sans même prendre congé de moi.
He had no capability when he was alive to
even durant sa vie, il n'avait aucune possibilité de reconnaître, tout comme Harvey Weinstein est incapable de reconnaître ce qu'il a fait. Il avait des privilèges, il était privilégié, il avait le pouvoir. Il ne se mettait même pas en question. J'ai attendu des excuses quand il était vivant. J'ai attendu aussi quand il est mort. Mais si je voulais des excuses, je devais l'écrire moi-même, me les écrire.
C'était un homme puissant, vous l'avez dit, Eve Ensler. C'était un intellectuel. Il ne voulait pas se marier, il ne voulait pas avoir d'enfants. Il voulait être rabbin et faire des études. Comment ce genre d'homme arrive-t-il à commettre l'abominable, autrement dit l'inceste, sur vous-même alors que vous aviez 5 ans?
I think that is the really critical question. How do men who
Mais c'est la question critique. Comment est-ce que des hommes qui apparaissent être des bonnes personnes deviennent des monstres? Et une des choses que j'ai tenté d'explorer dans ce livre, c'est véritablement demander à mon père, parce que je sentais que j'étais en dialogue avec cette créature qui était mon père, de revenir sur sa propre vie et de voir quels étaient les ingrédients de son enfance, de sa culture, qui l'ont fait devenir un homme capable de faire de telles choses. Et une des grandes choses, c'était que mon père était adoré. Il était vraiment hissé sur le pavois d'un golden boy. Il est arrivé 15 ans après le dernier enfant de sa famille. C'est l'accident qui est devenu miracle. Et en raison de cela, je ne pense pas que l'adoration soit de l'amour. C'est une projection de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, ce besoin de perfection. Donc il a été contraint de vivre au niveau d'une certaine idée. Mais dans la vraie vie, il faut être tendre, il faut pouvoir avoir la capacité de pleurer, d'être faible. Et mon père a repoussé tout cela, et finalement ça a créé une métastase. Et il est devenu ce qui est décrit dans ce livre, il devient l'homme ombre. Et il a fait ce que font les hommes privilégiés, blancs, de faire ce qu'ils veulent. C'est un homme qui a réprimé ses sentiments, qui a eu énormément de pouvoir. C'est vraiment un mélange extrêmement toxique. Et quand je suis né, il avait cet enfant qui a vraiment déclenché énormément de tendresse en lui, qu'il n'arrivait pas à gérer, parce que Lui n'a jamais été traité avec tendresse. Il ne savait pas quoi faire avec cette tendresse. Et c'est devenu sexuel parce que c'était pour ça. C'était ça qu'il croyait être un homme. Et en écrivant ce livre, c'était pas une justification de son comportement, parce qu'il n'y a pas de justification. Mais c'était important d'avoir une explication, de comprendre ce qui fait que des gens honnêtes, décents, qui sont nés avec des beaux esprits et un grand cœur, qui deviennent des prédateurs sexuels, qui deviennent vraiment des bourreaux domestiques.
Oui, parce que ce qu'il y a de remarquable est dans votre livre, Evansler, pardon, publié aux éditions de Noël, c'est qu'il y a une véritable tentative de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un prédateur sexuel. Là, en l'occurrence, votre père, c'est un récit, c'est votre histoire. Et vous expliquez comment cet homme a été submergé, bouleversé par quelque chose qu'il ignorait, qu'il n'avait jamais éprouvé, l'amour d'une petite fille. Et il n'avait jamais éprouvé véritablement de tendresse, vous le décrivez comme un homme extrêmement dur. Et la première fois qu'il a ressenti ce sentiment, c'était face à vous. Il n'a pas réussi à vivre avec. C'est cela en quelque sorte, Evansler.
Yes, I think that is it.
Oui, je crois que c'est ça.
When we bring up boys,
lorsque on élève des garçons,
and it happens to so many boys,
et ça arrive à tellement de garçons,
we basically tell them to become men,
et qu'on leur dit de devenir des hommes, ce que ça signifie souvent, c'est d'annihiler leur tendresse, d'annihiler leur vulnérabilité, leur empathie. Ne pleure pas, n'ouvre pas ton cœur. Et donc, mon père, je pense, a soudain ressenti tous ses sentiments face à cette petite fille. Et il a été submergé. Mais parce que personne n'a jamais été tendre avec mon père. Il y avait vraiment des grandes attentes, il y avait des exigences vis-à-vis de mon père. Personne n'a été tendre avec mon père. Il n'avait aucune possibilité de négocier ses sentiments. Et donc, immédiatement, c'est devenu sexuel.
Et alors, il y a donc le passage de cet amour qui est le submerge, un amour complètement inconnu, amour paternel et au début qui va déraper Evansler, le passage de cet amour infini à la suite de mauvais traitements, je ne les détaillerai pas, mais tout ce qu'il vous a fait subir, ce passage-là, vous l'interprétez notamment par un phénomène qui est particulièrement bien analysé dans ce livre, qui est la colère. Cet homme est empli de colère, dites-vous, c'est une sorte de poison qu'il prépare pour les autres, mais qu'il va lui-même absorber et s'en intoxiquer en quelque sorte. Pourquoi, Evansler, pourquoi cet homme qui a tout pour lui, qui a en apparence tout réussi, va-t-il être plein de colère et de ressentiment?
That's such a good question.
Excellente question.
I think there were several things.
Je crois qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, la pression sur mon père à cette époque de choisir un métier.
I don't think he wanted to choose.
Je ne pense pas qu'il ait voulu faire ce métier.
I think my father really did want to have a spiritual life.
Mon père aurait aimé avoir une vie spirituelle, devenir rabbin. Mais la pression de devenir le président d'une entreprise, directeur général d'une entreprise, d'être un patron dans un monde capitaliste, d'avoir une réussite, d'avoir une femme, des enfants, il n'aimait pas particulièrement les enfants. Il les méprisait. Ils étaient vraiment bruyants et sales. C'était une des raisons de sa colère. Et une autre raison, et je crois que les hommes deviennent souvent en colère à cause de ça, parce qu'on leur permet pas d'être des êtres humains. Vraiment, depuis très jeune, on leur dit qui ils sont censés être. Et ça implique souvent vraiment de les mettre dans une camisole de force, dans une sorte de réalité à la macho, une certaine façon d'agir, une certaine façon d'être. Et quand on n'a pas le droit d'être ouvert, humain, vous savez, il y a une histoire dans ce livre où il trouve un petit oisillon quand il est enfant. Il le voit sur le sol, il le tient dans sa main et il est tellement heureux d'avoir ce petit oisillon. Il sent son cœur battre et sa mère lui dit « Mais non, jette ça, c'est un sale petit oiseau !» Et elle frappe la main pour que l'oiseau tombe et meurt. Il n'a même pas le droit de pleurer sur le sort de cet oiseau. Et donc voilà, c'est l'histoire du patriarcat. Vous avez de la tendresse pour quelque chose de vivant, de naturel, qui est tendre, vivant, et vous n'avez pas le droit de tenir cet oiseau parce que c'est sale ou quoi que ce soit. Et ensuite, vous n'avez même pas le droit d'avoir des sentiments parce que vous avez tué cet oiseau.
Mais comment un homme qui veut avoir une vie spirituelle, vous le racontez, un rabbin? Alors justement, on a lu, à la suite de toutes les affaires de pédophilie qui sont apparues dans l'église, on a dit, les rabbins, c'est pas la même chose. Alors, moi, je n'ai jamais cru à cette théorie, mais on a par exemple pu lire que pour les rabbins, c'était différent parce qu'ils étaient mariés et que par conséquent, il n'y avait pas ce type de dérapage. Evansler, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Vous savez, tellement souvent, l'esprit et le corps sont séparés. Dans le cas de mon père, il y avait une partie de lui-même qui était saine, capable de diriger une entreprise, d'être charmant. Et puis, il y avait cette deuxième partie très dissociée qui, après quelques verres, relâchait le monstre. J'ai regardé toutes les religions. Vous savez que j'ai voyagé à travers le monde entier, que ce soit des rabbins, des prêtres, des religieuses, peu importe, ou des gourous, ou des professeurs de yoga qui deviennent des gourous. Constamment, on voit cette différence, cette coupure entre le maître spirituel, transcendantal, et les prédateurs sexuels. C'est dans tous les aspects de la spiritualité, parce que c'est pas intégré.
On parle beaucoup de votre père, parce que d'ailleurs, c'est une lettre qu'il vous adresse dans ce récit, Pardon, publié aux éditions de Noël, Evansler, mais il y a aussi votre mère, et là aussi, vous dites qu'il formait une sorte de couple modèle, calqué sur des personnages d'Hollywood. Ils avaient réussi à être deux acteurs, deux merveilleux acteurs, beaux, charmants. Là aussi, je vais vous poser la question, que faisait votre mère et comment expliquer ce contraste entre ces deux personnes si charmantes et le monstre qui est devenu votre père? Quant à votre mère, je vais vous laisser la qualifier.
I'm really glad you're bringing that up because I think,
je suis très heureuse que vous parliez de ça. Cette coupure, même avec Harvey Weinstein, entre l'apparence et la réalité. C'est tellement dur dans tellement de cultures. Vous savez, mes parents, c'était Cary Grant et Doris Day. Ils étaient beaux, ils s'habillaient bien. Mais ma mère venait d'un milieu extrêmement pauvre du Midwest. Elle a lutté pour sortir, s'extraire de la pauvreté. Elle a rencontré mon père, qui était ce playboy charmant new-yorkais. À 20 ans, elle avait 20 ans, il l'a enlevé. Et au moment où elle a eu des enfants, ma mère n'avait pas de travail, aucune qualification, elle n'avait pas d'argent. Elle était en fait le quatrième enfant de mon père, c'est lui qui avait l'argent, c'est lui qui avait le pouvoir, c'était le roi. Et je crois que plus tard, quand moi j'ai fait face à ma mère au sujet de ce que faisait mon père, elle m'a appelé un mois plus tard, elle m'a dit, après avoir fait vraiment une réflexion profonde, elle m'a dit, je t'ai sacrifié. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'être à nouveau pauvre. J'avais trois enfants. Où est-ce que je serais parti avec trois enfants? Je n'avais pas d'argent, aucune capacité, aucun travail. Elle a dit, fondamentalement, j'ai détourné la tête. Je ne voyais pas, je ne voulais pas voir ce qui t'arrivait. Je voulais garder ma position dans la vie. C'était vraiment désastreux pour moi. Je savais que j'étais sacrifié. Mais je pense aussi à cette capacité de faire cette différence, de se couper en deux, pour que les gens ne voient pas ce qu'ils sont en train de faire, de créer le déni. Ça arrive dans tellement de familles. Et depuis que ce livre, Pardon, a été publié, je ne peux pas vous dire combien de lettres j'ai reçues, combien de gens viennent me voir après les lectures de ce livre. C'est la même situation chez moi.
Alors, votre père ne vous a pas demandé pardon, puisque vous le faites revivre pour qu'il vous écrive cette lettre de pardon que vous n'avez jamais reçue. Votre mère, Est-ce que l'on peut, là aussi, se demander, est-ce qu'il faut exiger un pardon d'elle? Est-ce que vous considérez que cet aveu qu'elle vous a fait, qu'elle savait qu'elle n'a rien fait, est-ce que ça vaut pardon, Evensler?
Well, my mother did apologize.
Ma mère a demandé pardon.
My mother, before she died,
avant de mourir,
after I confronted her,
après que je lui ai fait face et que je lui ai dit je ne pouvais plus te parler si tu n'acceptais pas la réalité, elle a passé de nombreuses années dans des thérapies, à travailler avec moi, à en discuter, et elle a admis la responsabilité. Et avant de quitter ce monde, mais je voudrais dire quelque chose au sujet de ce que vous avez dit. L'imagination est très puissante. Et bien que mon père soit mort et qu'il n'ait pas écrit ses excuses, quand quelqu'un abuse de vous, il est en vous. C'est un abus physique, c'est en vous. Mon père a vécu en moi pendant tant d'années. Il a vraiment détruit ma vie jusqu'à ce que j'écrive ce livre. Et grâce à mon imagination, j'étais capable de parler de la partie de lui qui vit en moi.
Justement, il y a un grand contraste entre la manière dont vous décrivez ce couple riche et la terrible pauvreté. Pauvreté spirituelle, pauvreté affective. Vous dites, par exemple, mes parents avaient une sexualité superficielle. Qu'est-ce que vous appelez une sexualité superficielle et quel est le lien que vous feriez, Evensler, entre cette sexualité superficielle et la manière dont votre père vous a abusé? Est-ce que c'est cela l'explication pour vous?
I don't know if it was the explanation.
Je ne sais pas si c'était l'explication.
I would say that my as I say in the book, my
mais comme je le dis dans le livre,
they did performance art.
Mais mes parents étaient des acteurs.
They were a gorgeous couple.
Ils étaient charmants, c'était un merveilleux couple.
But I don't believe in from everything I've heard.
Mais de tout ce que j'ai entendu, je ne crois pas qu'ils aient eu une vie sexuelle profonde. Pas du tout. Tout chez eux semblait très superficiel. Là où mon père a vraiment franchi la ligne sexuellement avec moi, ça venait d'une forme de désespoir, d'une faim effaïm pour la tendresse, pour une relation, pour une intimité spirituelle qu'il ne pouvait pas avoir. Et je crois que ça venait aussi de cette surexploitation prédatrice qui vivait en lui et que moi j'avais fait revivre. Et après, il n'avait plus aucun contrôle sur cette partie de lui-même.
Comment avez-vous réussi à devenir cette femme forte que vous êtes? En tout cas, c'est ainsi qu'on vous imagine. Evensler, qu'est-ce qui vous a permis de reprendre le dessus par rapport à cette histoire terrible quand même?
I was a very rebellious person.
J'étais quelqu'un de très rebelle.
I was very defiant.
J'étais vraiment dans la défiance. Depuis que je suis né, je ne pouvais pas supporter l'injustice. Je résistais follement à toute autorité, quelle qu'elle fût. Mais après une certaine quantité d'abus du fait de mon père, avec cette violation continue, il y a eu un moment où je me suis rendu compte que j'allais mourir, en fait une mort spirituelle, si je ne résistais pas. Et cette résistance a commencé quand je me suis détourné de mon père, quand il m'abusait sexuellement, et plus tard quand il m'a abusé physiquement. Il y a un moment où je me suis dit, va de l'avant, allez, vas-y, tue-moi, allez, vas-y, tue-moi. Et je crois que ça l'a rendu dingue de voir à quel point j'étais détaché et à quel point je m'étais renfermé sur le plan émotionnel.
Evensler, pardon, le récit que vous publiez aux éditions de Noël, traduit de l'anglais par Héloïse Esquier, tandis que vous étiez traduite, que vous serez traduite également par Maître Zlotowski. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejointe par l'humoriste Sophia Aram, qui a joué notamment dans les monologues du vagin. On évoquera d'ailleurs ce texte qui vous a fait connaître, comment vous l'avez fabriqué et comment celui-ci est devenu le texte le plus connu dans la littérature féministe mondiale. 8h sur France Culture.
7h-9h, Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et nous retrouvons Eve Ensler, dramaturge, écrivaine américaine, auteure de Pardon, ce récit qui est publié aux éditions de Noël, traduit de l'anglais par Héloïse Esquier, tandis que vous l'êtes par Maître Zlotowski. Ici même un récit où vous faites parler votre père, comme si votre père vous écrivait cette lettre qu'il ne vous a jamais adressée, où il vous demanderait pardon, pardon de vous avoir abusé lorsque vous étiez une petite fille de 5 ans, Eve Ensler. À côté de vous, nous accueillons Sophia Aram, bonjour.
Bonjour.
Sophia Aram, vous êtes humoriste, vous êtes chroniqueuse chez nos camarades de France Inter, comédienne, et vous êtes aujourd'hui à l'affiche dans un seul en scène nommé « À nos amours » où il est très largement question de la condition des femmes. J'aimerais tout d'abord, Sophia Aram, que vous nous présentiez les monologues du vagin pour ceux qui ne connaissaient pas encore ce texte, un texte que vous avez joué. Que dit-il ce texte et en quoi ce texte a-t-il été important pour vous?
Ce texte a été important pour de nombreuses femmes et dans de nombreux pays parce que ce qui était assez salutaire, c'était... Alors on parle beaucoup de libération de parole, je crois qu'Eve Ensler a été une des premières femmes à le faire avec autant de talent, d'humour. Alors certains trouveront ça cru parce que ce sont les vagins des femmes qui s'expriment, mais il était temps de donner la parole à nos vagins et elle l'a fait avec tellement de finesse, tellement d'intelligence, tellement d'émotion que la première fois que je les ai entendues, j'ai eu la chance de les entendre jouer par des actrices incroyablement talentueuses au Festival d'Avignon. Il y a quelques années, ça m'a bouleversée parce que c'était libérateur, vraiment.
Qu'est-ce qu'il y a notamment de particulièrement vrai dans ce texte qui vous a paru nécessaire, une manière de briser un tabou, Sophia Aram?
Mais quand on voit le nombre de tabous qu'il y a autour du corps des femmes, le nombre d'injonctions qu'il y a sur les femmes et depuis leur enfance, elle y est allée... elle y est allée frontalement. C'est-à-dire que, en faisant parler les vagins des femmes, en leur donnant la parole à toutes ces femmes du monde entier et à tous ces corps du monde entier qui se libéraient, c'était d'une efficacité redoutable parce que, quoi de plus efficace que de faire parler nos vagins qui sont la partie qui subit le plus? Je vais vous donner un tout petit exemple. Dans ma carrière d'humoriste et de chroniqueuse, j'en ai parlé souvent, j'ai subi des insultes, des menaces, toutes sortes de choses. Mais ce qui revenait très régulièrement, de la part de mes détracteurs, puisque ce sont souvent des hommes, c'était de m'introduire des choses dans le corps. Alors souvent c'était dans mon anus, mais parfois c'était dans mon vagin. Et c'était la volonté de m'introduire des objets dans le corps. Pourquoi? Parce que pour faire mal à une femme, on a envie de le faire mal et d'atteindre son vagin en premier lieu.
Alors j'ajoute, Sophia Aram, que vous serez demain dans un événement qui est organisé autour d'Eve Ensler, une rencontre pour la lutte contre les féminicides et les violences sexistes. C'est au CNAM. Eve Ensler, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous en êtes venu à écrire ce texte, les monologues du vagin, et à faire finalement de ce texte à l'humanité tout entière, puisque aujourd'hui c'est un texte qui est devenu quasiment un manifeste pour les femmes et les hommes d'ailleurs du monde entier.
You know, it was really an accident.
En fait, c'était un accident.
It grew out of curiosity.
C'est parti de la curiosité.
I was talking to an older woman, a feminist.
Je parlais à des féministes plus âgées.
Who was going through menopause?
Des féministes qui arrivaient à la ménopause.
And she said all these frightening things about her vagina.
Et elle disait toutes ces choses terribles au sujet de leur vagin, que voilà, il devenait sec, il y avait plus de sentiments, et moi ça m'horrifiait.
And so I laughed and I thought,
j'ai rigolé.
What do I think
et je me suis dit,
vagina?
Qu'est-ce que je pense, moi, de mon vagin? Qu'est-ce que les autres femmes pensent de leur vagin? Donc j'ai dit à une copine, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu sens de ton vagin?
Oh,
ma mère me disait, ne mets pas de culotte sous ton pyjama parce que vraiment, ça va l'étouffer, ton petit chat.
That really began this quest.
Et j'ai commencé cette quête à poser cette question aux femmes. Et vous savez comment sont les femmes. Ah non, tu sais, toi, faut que tu parles à ma copine, elle a une histoire dingue au sujet de son vagin. Et j'étais aspiré sur ce chemin du vagin, en quelque sorte. Et puis...
I don't think I really had any intention of writing a play.
J'avais pas vraiment l'intention d'écrire une pièce parce que j'étais déjà quelqu'un qui écrivait des choses politiques. J'ai parlé à une femme qui a eu une expérience sexuelle quand elle était jeune fille, qui était très humiliante. Et elle n'a plus jamais fait l'amour de sa vie.
And I was like, what?
J'ai dit quoi?
You have not had sex for your
T'as
whole
pas
life.
Fait l'amour
that
de toute
could not
ta
be possible.
Vie. Mais c'est pas possible.
And so that really began.
Et vraiment,
the desire
ça
to write
a commencé, débuté le désir d'écrire cette pièce.
And so I did all these interviews, and then I went off
j'ai
and
fait
wrote
toutes ces interviews,
a
ces
fictional,
entrevues,
you know,
et j'ai écrit donc une pièce
But
de fiction.
First time
I Mais la première fois que je l'ai jouée,
it was amazing.
C'était étonnant.
It was like boom.
C'était vraiment comme une explosion.
Women would line up.
C'était en 96.
96.
96, 94.
Ouais. Non, 94.
Women would line up.
Les femmes
every night
faisaient la file tous les
the
soirs
theater,
devant le théâtre.
Say, Can I tell you my story?
Et elles me disaient, est-ce que je peux
Can
te raconter mon histoire? Je peux te raconter mon
and
histoire?
At first I thought, oh, great,
et au début, je me suis dit, ah bon, ils vont me raconter leurs orgasmes exceptionnels, leurs désirs, leur vie sexuelle. 90% d'entre elles étaient venues me dire la façon dont elles avaient été violées, abusées, sexuellement harcelées. Et vraiment, ça m'a effondré. Et c'est comme ça que ce mouvement est né.
Sophia Aram, je vous ai demandé de choisir un extrait des monologues du vagin et de nous le lire.
Mais oui, et j'ai choisi « Mon vagin est en colère ». Est-ce que ça vous va, Evansler?
Oui.
C'est parti. « Mon vagin est en colère. Il en a ras la touffe. Mon vagin est furieux. Il faut qu'il parle de toute cette merde. Il faut qu'il vous parle à vous. » Non mais c'est quoi le plan? Une armée de gens qui cherchent tous les moyens possibles pour torturer ma pauvre bête, mon si gentil, mon si adorable vagin? Qui consacrent leur journée à inventer tout un tas de trucs de psychopathes et d'idées barbares pour me taper la chatte? Ce sont des enfoirés du vagin. Toutes ces conneries qu'ils essayent sans arrêt de nous foutre dedans, de nous purifier avec, de nous colmater avec, bref, de le faire disparaître purement et simplement. Eh bien, mon vagin n'ira nulle part. Il en a ras la touffe et il reste exactement là où il est. Les tampons, par exemple. C'est quoi ces conneries? Ils peuvent pas trouver un moyen de les lubrifier délicatement, leurs tampons? Mais dès qu'un vagin en voit un, il est en état de choc et il se ferme. Vous devez convaincre notre vagin, le séduire, gagner sa confiance. Ça sert à ça, les préliminaires. Et je peux vous dire que vous n'y arriverez jamais avec un putain de bout de coton tourèche. Arrêtez de le remplir avec tous ces trucs et arrêtez de le nettoyer. Mon vagin n'a pas besoin d'être nettoyé, il sent très bon, merci. Ne les croyez pas quand ils vous disent qu'il sent la rose, quand il est censé sentir la chatte. C'est ce qu'ils essayent de faire, le purifier, avec tous leurs sprays aux fleurs, aux fruits ou à la pluie. Mais je ne veux pas que ma chatte sente la pluie, toute propre, comme un poisson, qu'on aurait nettoyé avant de le cuire. Je veux sentir le poisson. C'est pour ça que je l'ai commandé. Et puis, parlons des visites de contrôle, tiens. Qui est-ce qui a inventé les examens gynéco? Il doit quand même bien y avoir une façon plus agréable de les pratiquer, non? Pourquoi cet horrible drap en papier qui crisse quand je m'allonge dessus? Pourquoi ces gants de caoutchouc? Pourquoi cette lumière aveuglante en plein dans ma figure? Pourquoi ces étriers d'acier dignes des nazis et cet horrible bec de canard glacé qu'on me rentre là-dedans? C'est quoi ce bordel? Ces visites foutent mon vagin dans une colère! Décontractez-vous, décontractez votre vagin. Et pourquoi? Pour qu'on puisse m'enfoncer un bec de canard glacé dedans? Je ne crois pas, non. On ne pourrait pas m'envelopper dans un délicat velours violet, m'allonger sur une couverture de plumes et de coton, enfiler de jolis gants roses ou bleus et placer mes pieds délicatement sur des étriers recouverts de fourrure et chauffer le bec de canard, peut-être, travailler en harmonie avec mon vagin. Mais non, et c'est pas fini.
Merci beaucoup, Sophia Aram, pour cette lecture donc d'un extrait des monologues du vagin d'Eve Ensler. Eve Ensler, le vagin, parce qu'il y a une représentation masculine. En France, on a l'origine du monde. Et d'ailleurs, je lisais Le Canard Enchaîné. Le Canard Enchaîné est un journal de caricaturistes très célèbre en France. Et il y a aujourd'hui un dessin de Wozniak, un grand dessinateur, Wozniak, qui illustre l'affaire Weinstein. Et il a fait une sorte de pastiche de l'origine du monde, mais au milieu de l'entrejambe, c'est un petit zizi. Je ne sais pas si vous avez vu ce dessin de Wozniak. Et il dit, voilà, c'est ça, l'affaire Weinstein. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le fait que vous, vous ayez fait les monologues du vagin, alors que d'aucuns, je crois que Sophia Aram est partie de cela, estiment que les hommes sont trop autour de leur zizi.
What's the question?
Le fait que l'origine du monde, la représentation du vagin, généralement, est faite par des hommes, qu'elle a une histoire en France, et que vous, vous soyez dit, bah, finalement, il faut les faire parler, il faut que les femmes les fassent parler.
I think I think one of the wonderful things, and thank you, Sophie. That was beautiful.
Merci beaucoup, Sophie, de votre lecture. Elle était merveilleuse.
So many times men are speaking about us for us.
Si nombreuses reprises, les hommes parlent de nous pour nous, pour décrire ce que nous sentons, ce qui se passe dans notre corps. Et un des grands plaisirs des monologues du vagin, ça a été de voir tellement de femmes à travers le monde qui donnaient la voix à leur propre corps, à leur propre plaisir, leur propre excitation, leur propre désir, leur propre douleur. C'est tellement différent de ce que les hommes interprètent pour nous.
Et
je pense que plus les femmes peuvent donner la voix à ce qui est véritablement leur, sans être filtrées par la vision des hommes, plus il y a de possibilités de communiquer les unes avec les autres. Et notre vision de notre sexualité pendant tellement longtemps nous a été donnée, disons, a été réprimée pour nous par les yeux des hommes. Je crois que la libération de la sexualité féminine, c'est notre pouvoir, c'est notre force, c'est notre moteur. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est exceptionnel, extraordinaire, de voir des femmes dans tellement de pays qui viennent à la fin de la pièce, parce que dans toutes les cultures, dans toutes les langues, c'est totalement différent et tellement la même chose.
Sophia Aram.
Parce qu'à la fin, il y a une séquence où on fait des gémissements, où on exprime notre plaisir. Et donc,
vous simulez,
je veux bien imaginer. on va chercher en nous ce qu'est notre plaisir. Ce n'est pas forcément de la simulation.
Non, ce n'est pas de la simulation, pas du tout.
Tout de suite, les méchants mots, Guillaume Erner.
Mais Eve Ensler, lorsque vous entendez justement les réactions de ces femmes, c'est... aujourd'hui, un texte qui est joué un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il y a des spécificités, des particularités en fonction des pays, puisque malgré tout, la condition des femmes n'est pas aujourd'hui équivalente d'un pays à l'autre.
You know, there are cultural like names or
il y a
different
des noms or selon les cultures,
actors that get replaced like inside the text.
But I will tell you something. Différents qui placent des choses dans le texte. Mais je peux fermer les yeux au Pakistan, en Croatie,
in Congo.
Au Congo.
And people laugh at the same places.
Et le public rit aux mêmes endroits, pleure aux mêmes endroits, l'orgasme est le même dans les différents lieux. Et ce que ça m'a vraiment enseigné, c'est qu'il y a un langage universel des femmes et une oppression universelle. Le patriarcat, c'est un virus mondial.
Après avoir entendu un extrait des monologues du vagin, j'aimerais vous faire entendre un extrait de votre spectacle, Sophia Aram. À nos amours, c'est un extrait qui vient en quelque sorte compléter les monologues du vagin.
Et la queue, c'est valorisant, la queue. Dans le manège, on attrape la queue du Mickey. Hein, c'est réjouissant, c'est festif, une queue. Hein? Et d'ailleurs, même en verlan, on parle de teub. Hein? Et ça n'a rien de réducteur, la teub. Surtout avec l'emphase. Hein, c'est presque majestueux. Une teub. C'est élégant, une teub. Tu veux une photo de ma teub? Oh, oui, 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 ça me ferait bien plaisir, une photo de ta teub. Et alors oui, il faut simplement que je vous rappelle aussi que le clitoris est trop éloigné des amygdales pour qu'une femme puisse avoir un orgasme pendant qu'elle fait une fellation. Non, je sais, ça arrange certains de le croire. Mais non, non, ça marche pas. Non, 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 on veut bien être gentil, faire plaisir, rendre service, tout ça. Mais si vous pouviez nous éviter les... T'aimes ça? Elle est bonne. T'en veux encore? Pile au moment où on ne peut pas vous répondre.
Sophia Aram, tandis que Maître Zlotowski traduit votre...
C'est un régal d'entendre Monsieur Zlotowski traduire mon spectacle. C'est... Merci beaucoup, c'est gentil faire la traduction
un
de tout,
aussi
de tout ce que je raconte sur ça.
Je crois qu'au travers d'À nos amours, vous expliquez, Sophia Aram, qu'il y a une forme de forfanterie masculine que les hommes considèrent un peu être au centre du monde, que s'ils avaient eu des règles, par exemple, eh bien celles-ci auraient été popularisées de toute autre manière.
Oui, ben, dans les monologues, il est question des règles et c'est vrai que j'ai trouvé ça important d'évoquer ce sujet dans le spectacle parce que à partir de l'âge de 12 ans, a priori l'âge où on a nos premières règles, on comprend que c'est quelque chose de tabou, qu'il faut cacher, qu'il faut planquer sa petite serviette hygiénique qu'on va mettre dans des petits sacs, dans nos pochettes. On met des pulls autour de nos tailles, on a tout un tas de ruses parce que c'est honteux. Donc en réalité, le jour où on devient une femme à 12 ans, on apprend à avoir honte d'être une femme. Et tout ça se passe tout au long de nos vies, tous les mois. Et ça concerne quand même la moitié de l'humanité. Ça nous accompagne pendant une bonne quarantaine d'années. Mais c'est là. Et je me dis quand même que si les hommes avaient leurs règles, j'en suis vraiment convaincue, je pense que ça aurait été autrement.
Qu'est-ce que vous en pensez, Eve Ensler, si les hommes avaient leurs règles?
I always say if men had periods, if men had babies,
si les hommes avaient des règles, avaient des enfants, il y aurait des monuments. Et vraiment, on se prosternerait devant les monuments de la naissance.
I think there's really an interesting thing happening.
Il y a des choses intéressantes qui se produisent avec les jeunes générations. Avec les mères qui sortent avec leurs filles, avec des festivals, des célébrations, quand elles ont leurs règles, pour dire à quel point c'est merveilleux. Ah, le sang menstruel, c'est beau. Et c'est le début, la première règle, c'est le début d'une vie merveilleuse. Et quand moi j'ai grandi, oh mon Dieu, c'est la fin de la vie, voilà, ça y est, ça commence. Et les choses sont comme vous souhaiteriez qu'elles soient. Si vous leur disiez aux filles, voilà, c'est le début de ta vie sexuelle, elles vont le croire. Et si vous dites à quelqu'un, bah, c'est la fin de ta vie, vraiment, c'est fatal, c'est fini, bah, vous y croyez aussi.
Et l'impureté, c'est-à-dire qu'il y a ce côté impur qui arrive avec toute l'éducation religieuse. La femme, quand elle a ses règles, on la met de côté dans des tas de cultures, dans des tas de religions, encore aujourd'hui. Et c'est vrai que tout ça, on l'a quelque part bien ancré dans nos esprits.
Finalement, Eve Ensler, vous nous racontez l'histoire à l'envers parce qu'on vous a connu avec les monologues du vagin et puis aujourd'hui on découvre, au travers de Pardon, ce récit que vous publiez chez De Noël, que vous avez été un enfant abusé. Comment passer de cet enfant abusé à l'icône féministe que vous êtes et puis aussi à cette femme qui parle à toutes les femmes et probablement de plus en plus d'hommes aujourd'hui?
And thank you for being one of those men.
Et merci d'être l'un de ces hommes, Guillaume.
I think the recovery.
Je crois que la guérison des abus terribles, ça a été un très long voyage.
And as I say in the book,
et comme je le dis dans le livre,
a lot of it was spent destroying myself.
Beaucoup de temps a été passé à me détruire et en fait à me reconstruire ensuite, retrouver ma confiance, ma mémoire. Je crois qu'il y a trois choses qui m'ont aidé. La première, c'était l'imagination. Je pense qu'on sous-estime le pouvoir de l'imaginaire, de voir un avenir de la vie, un avenir du possible, de gens qui viennent nous sauver. Et l'écriture, pour moi, c'est comme ça que je me suis sorti de ce désespoir. Et la deuxième chose, c'est être un militant, une militante. Quand on est dans la peine, dans le désespoir, quand on peut aller vers les autres, donner aux autres ce que vous voulez le plus, alors vous êtes en train de guérir ce qui est cassé en vous. Et la troisième chose, c'est les gens extraordinaires qui sont apparus devant moi. Vraiment, des étrangers que je n'attendais pas, qui étaient gentils, qui voyaient ma peine, ma souffrance, et qui m'ont dit « je vais t'aider ».
Sophia Aram.
Et dans cette période où on parle de libération de la parole et dans toutes ces affaires qu'on entend dans l'actualité, ce livre arrive à point nommé parce que j'imagine que de nombreuses femmes qui vont le lire vont y trouver quelque chose d'assez... je ne sais pas trouver le mot, mais en tout cas qui va les aider à passer ces épreuves parce que souvent, elles n'y ont pas eu droit, elles.
Avec une analyse de ce qui conduit un homme à faire ça, parce que c'est cela qui m'a particulièrement frappé dans votre livre Eve Ensler, publié chez De Noël, pardon, c'est qu'il y a aussi une tentative d'explication de se mettre à la place de l'autre, de se mettre à la place de l'ogre. On retrouve donc votre livre, on retrouve votre spectacle, Sophia Aram, À nos amours, à Lille le 14 février, le 24 mars à Toulouse, le 1er avril à Toulon, et le 4 avril, vous serez à Montélimar.